Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à tous nos auditeurs de Bana Okapi. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une réalité déchirante qui frappe nos enfants dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 20 ans, les conflits armés ravagent notre pays et récemment, la résurgence de violence avec les M23 soutenue par le Rwanda a plongé des milliers de familles dans le chaos. Des enfants, filles et garçons sont contraints de fuir leur foyer, abandonnant tout derrière eux pour sauver leur vie. Mais au-delà des déplacements et des pertes matérielles, c'est leur avenir qui est en jeu. L'éducation, pilier de leur développement, est gravement compromise. Dans ce magazine Bana Okapi, nous mettons en lumière l'impact dévastateur des conflits armés sur l'éducation de nos enfants. Comment la guerre vole-t-elle leur droit à l'éducation? Quels sont les témoignages poignants de ces enfants, de leurs enseignants et de ceux qui vivent au quotidien dans ces zones de conflit? Restez avec nous pour écouter ces voix, comprendre les enjeux et découvrir les initiatives qui tentent de redonner espoir à ces jeunes vies brisées. Sarah Soumbela est à la présentation de ce magazine, une mise en onde de Pierre Diassinois. Christian Mapindano-Yacris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matouekimoufelele, Dijano. Radio Okapi. Ce magazine prend son envol en Ituri, l'éducation est en otage. Depuis 4 ans, de centaines d'écoles à Walesa, Vankoto, luttent pour survivre. La raison? Les groupes armés, notamment les ADF, qui sèment la terreur. Des milliers de familles ont fui, trouvant refuge à Komanda. Mais la situation est critique. Les écoles débordées manquent de tout. Comment assurer l'éducation de ces enfants déplacés? Un reportage des Ezekiel Mosalia.
La situation sécuritaire reste encore précaire dans la chefferie de Walesa et Vankoto à la suite des atrocités des rebelles des ADF. Cette situation impacte sérieusement les activités scolaires dans cette région affectée par les violences des rebelles. Presque toutes les écoles ont fermé leurs portes ici, d'autres n'existent que de nom et d'autres encore sont délocalisées à Komanda Centre. Cet enfant, inscrit dans l'une des 5 écoles qui fonctionnent à l'Épé Mwangaza, explique les contextes dans lesquels sa famille s'est retrouvée à Komanda après le meurtre de ses parents à Loloa.
Nous sommes arrivés ici à pied à provenance de Loloa. Nous sommes passés par Mungamba jusqu'au pont Ituri. Et voilà comment nous nous sommes retrouvés à Komanda. Les ennemis ont surgi dans notre village. Ils ont incendié des maisons, tué mon grand-père et tué mon père aussi. C'est ce qui m'a fait du mal. Mais quand même, j'ai poursuivi les études et mon rêve est de devenir infirmier.
Même cri d'alarme du côté des enseignants, dont la plupart vivent aussi en déplacement dans la région de Komanda. Les uns sont dans des familles d'accueil, d'autres dans des sites de déplacés où les conditions sont difficiles. Enawa Ena, enseignant à l'Épée Makanga.
Il y a à peu près 4 écoles de Walesa et Vankoto qui fonctionnent ici à Komanda. Nous venons d'effectuer déjà 4 depuis que nous sommes ici à Komanda. Trouver les nécessaires, les fournitures, surtout les fournitures pour les élèves, c'est, en tout cas c'est très difficile. Les uniformes, c'est très difficile. Et dans les après-midi, quand nous sommes en train de fonctionner, nous avons beaucoup de difficultés. Nous manquons quoi faire. Nous voulons la paix pour que nos écoles rentrent dans leur milieu d'origine.
Pour leur part, les responsables d'école indiquent que cette instabilité provoque parfois des troubles mentaux et des traumatismes chez certains enfants. Kayindo Moussavouli fait allusion notamment à la guerre du M23 à l'Est, au Nord Kivu et au Sud Kivu, qui déstabilise tout l'Est de la RDC.
On étudie normalement. Il n'y avait pas tellement de traumas avec ces élèves. Mais seulement... Quand nous avons appris que Goma est tombé, Bukavu, ainsi de suite, alors cela a traumatisé fort ces enfants parce qu'il y avait beaucoup de dire. Nous sommes avec ces enfants-là qui viennent à l'école parce qu'il faut le faire. Mais normalement, si on ne tenait pas compte de l'année scolaire, ces enfants devraient d'abord rester à la maison.
Grâce aux opérations conjointes FARDC armée ougandaise, certaines familles sont déjà retournées dans leur village. Cependant, ils sollicitent l'appui du gouvernement et des humanitaires en vue d'améliorer leurs conditions de vie qui sont très précaires.
Vous l'avez entendu, plus d'une centaine d'écoles de Wallis-Savoncoutou a été délocalisée à Komanda. Mais derrière ces chiffres, quelle est la réalité? Comment ces écoles fonctionnent-elles dans ce contexte de déplacement massif? Quelles sont ces écoles et surtout, comment l'insécurité affecte-t-elle concrètement l'éducation de ces élèves? Pour répondre à ces questions, notre reporter Ezekiel Mouzalia, de retour de la zone, a rencontré les directeurs de l'EPE Mwangaza, un établissement qui accueille à lui seul plus de 5 écoles de placés. Un témoignage crucial pour comprendre les défis de l'éducation en zone de conflit.
Oui, on m'appelle le directeur N.A.N. Agent. Je suis directeur de l'EPE Makanga. L'école Makanga se trouve dans la chefferie de Wallis-Savoncoutou, à territoire de Rumo.
Alors, comment vous êtes retrouvé ici? C'était une école délocalisée. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez ici?
L'école n'est pas délocalisée. C'est suite à la guerre qui nous a secoué dans la chefferie de Wallis-Savoncoutou, qui nous pousse de venir maintenant se réfugier ici à Komanda. Alors, ici à Komanda, nous sommes en train de traverser une vie très difficile. La vie actuelle qu'on traversait chez nous, là-bas, en tout cas, c'était mieux par rapport avec la vie que nous sommes en train de mener ici à Komanda. Les enseignants mangent difficilement. Nous sommes en train de travailler dans les après-midi. Alors, nous n'avons pas de bâtiment scolaire. Alors, c'est pourquoi nous nous retrouvons ici à Komanda. Alors, la vie semble être difficile avec les salaires que le gouvernement nous donne. En tout cas, les enseignants ne parviennent pas à se retrouver pour la situation de la vie.
Et depuis quand votre école est délocalisée ici?
Ça fait 4 ans aujourd'hui. Nous sommes ici à Komanda. Alors, nous demandons à notre gouvernement de nous aider pour que les écoles rentrent chez nous à Wallis-Savoncoutou.
C'est combien d'écoles qui fonctionnent en déplacement ici à Komanda?
Il y a à peu près 134 écoles de Wallis-Savoncoutou qui fonctionnent ici à Komanda.
Est-ce que et c'est depuis quand ces écoles fonctionnent ici à Komanda?
Bon, normalement, ce que je connais, c'est à peu près 4 ans. Nous venons d'effectuer déjà 4 ans depuis que nous sommes ici à Komanda.
Donc des centaines d'écoles en fait?
Oui, il y a certaines écoles qui se trouvent ici.
Et comment ces écoles fonctionnent justement? Comment les enseignants, les enfants, comment tous ces gens-là parviennent à se regrouper à un petit endroit pour quand même poursuivre les enseignements?
Bon, pour l'encadrement des enfants, nous sommes en train de nous efforcer pour encadrer nos enfants, surtout les enfants déplacés de cet axe. Luna Komanda, nous sommes en train de nous efforcer. Alors, nous avons négocié avec les écoles hautes d'ici à Komanda, ils nous ont accueillis, c'est pourquoi nous sommes en train de fonctionner dans les après-midi. Alors pour les parents, en tout cas, trouver les nécessaires, les fournitures pour les élèves, en tout cas c'est très difficile, les uniformes c'est très difficile. Et dans les après-midi, quand nous sommes en train de fonctionner, nous avons beaucoup de difficultés qui nous éprouvent, en tout cas, nous manquons quoi faire. C'est seulement, nous voulons la paix pour que nos écoles rentrent dans leur milieu d'origine. C'est ce que nous voulons.
Oui, avec l'amélioration de la situation sécuritaire, surtout vers Irumu, il y a quand même certains déplacés qui commençaient déjà à retourner. Pourquoi ces écoles n'ont pas retourné?
Bon, les parents, il y a certains parents, ou soit les populations qui regagnent notre milieu là-bas, mais les écoles ne sont pas encore autorisées de regagner le milieu, puisqu'il y a encore les sécurités, il y a encore les sécurités qui persistent dans notre chefferie de Wallis-Savoncoutou. Les parents qui rentrent là, ils rentrent seulement pour aller se ravitailler, hein, 2 jours, 3 jours, ils rentrent encore ici à Komanda. Mais en tout cas, la chefferie de Wallis-Savoncoutou jusqu'à présent, il y a encore les sécurités qui règnent là-bas.
Et l'éducation de tous ces milliers d'enfants, comment vous analysez leur éducation et tout, leur avenir quoi?
Bon, nous les encadreurs, nous sommes en train de nous forcer pour que quand même nos enfants puissent quand même bénéficier quelque chose pour les aider dans la vie future. Nous sommes en train de nous efforcer.
Mais est-ce qu'au-delà de ça, il y a d'autres difficultés auxquelles vous faites face?
Il y a des difficultés puisque nos enfants étudient difficilement. La condition que nos enfants sont en train d'étudier, en tout cas, ce n'est pas bien. Nous voulons seulement que le gouvernement, nous demandons au gouvernement de songer pour aider quand même ces enfants avec les fournitures, les uniformes et tout qu'on sort.
Merci.
Nous venons plutôt de suivre le directeur de l'EPI Makanga de Wallis à Vankoutou à Komanda.
Okapi,
Okapi, Okapi.
L'est de la RDC, une région au bord du gouffre. Alors que les violences et les déplacements atteignent des niveaux alarmants, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Des centaines de milliers d'enfants risquent de perdre leur année scolaire. Plus de 2500 écoles fermées, 1,6 million d'enfants déscolarisés, un appel à l'aide de 52 millions de dollars. La situation est critique et l'urgence d'agir n'a jamais été aussi forte. C'est ce qui ressort du communiqué de presse de l'UNICEF du 17 février. Christelle Fritti nous en fait les condenser.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF en sigle, préconise des mesures d'urgence pour sauver l'année scolaire de centaines de milliers d'enfants. Cet appel fait suite à l'escalade de violence et au mouvement de déplacement de la population dans la partie est de la République démocratique du Congo, partie en proie à une guerre d'agression que subit la RDC face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. L'UNICEF craint que beaucoup d'enfants ne retournent jamais à l'école. 330 000 enfants supplémentaires sont désormais déscolarisés. Selon les communiqués de presse de l'UNICEF, avant la dernière escalade du conflit, le système éducatif dans l'est de la République démocratique du Congo était soumis à une immense pression, en partie due au nombre élevé de personnes déplacées. Et pire encore, plus de 6,5 millions de personnes, dont 2,6 millions d'enfants, sont actuellement déplacés dans la région. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme avec de statistiques aux conséquences désastreuses. Ténées, les violents conflits depuis le début de l'année ont forcé plus de 2500 écoles et espaces d'apprentissage dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, y compris ceux situés dans le camp de déplacés à fermer. Avec des écoles fermées, endommagées ou détruites ou transformées en abris, 795 000 enfants sont désormais privés d'éducation contre 465 000 en décembre 2024. En incluant la province de l'Ituri, près de 1,6 million d'enfants dans l'est de la RDC sont maintenant déscolarisés. C'est une situation désespérée pour les enfants, a déclaré Jean-François Bass, représentant par intérim de l'UNICEF en RDC. Sachez également que dans le cadre de son appel humanitaire global, l'UNICEF recherche 52 millions de dollars américains pour répondre aux besoins éducatifs urgents de 480 000 enfants. Par ailleurs, l'UNICEF appelle également le parti au conflit à respecter les installations éducatives et autres biens civils conformément à leurs obligations en vertu du droit international et à mettre immédiatement fin à l'utilisation militaire de toute installation éducative.
Les amis de Bana Okapi, nous arrivons à la fin de la première manche de votre magazine préféré Bana Okapi. Rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bel et bien sur Radio Okapi et vous écoutez Bana Okapi, votre émission dédiée aux jeunes, aux plus jeunes et à leurs parents, fruit du partenariat entre Radio Okapi et l'UNICEF. Nous poursuivons notre exploration d'un sujet déchirant, l'impact des conflits armés sur l'éducation de nos enfants. Dans la première partie de cette émission, nous avons dressé un tableau alarmant à Komanda en Ituri. Des centaines d'écoles sont réduites au silence par l'insécurité. Les élèves vivent un véritable calvaire. Dans cette seconde partie, nous allons élargir notre regard pour comprendre l'ampleur de cette crise. Nous recevrons des invités, des marques qui vont nous aider à décortiquer les conséquences de ces conflits sur l'éducation à l'échelle nationale. Ensemble, nous allons écouter des témoignages poignants, analyser les enjeux et explorer les pistes de solutions pour redonner espoir à ces enfants dont l'avenir est en jeu. À la présentation de ce magazine, je suis Sarah Sombella. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner tout au long de cette émission. Un programme coordonné par Christian Mapendano et Yacris, avec la mise en onde de Pierre Diassinois et la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelili Dijano. À Goma, le retour à l'école sous le poids du traumatisme. Après des semaines d'interruption, les enfants ont repris le chemin de classe. Mais ce ne sont plus le même. La guerre a laissé des traces profondes. Oubli des acquis, peur constate, concentration impossible, les cours adaptés au contexte commencent et finissent plutôt au rythme de l'insécurité. Comment ces jeunes élèves, en particulier les terminales, vivent-ils cette réalité? Comment les enseignants s'adaptent-ils? Suivez ce reportage rendu par Rachel Kissimbangu.
Quand on écoute les balles, on est traumatisé. On a même pris envie de toucher les cahiers. On demande quand la guerre va se finir.
Cette question hante l'esprit des enfants de Goma. Habituellement, les enseignants répondent aux questions de leurs élèves. Mais face aux interrogations sur le conflit, ses causes, sa durée, les enseignants sont démunis. Un enfant témoigne ici de son vécu.
On attendait des coups de balle chaque jour. On n'arrivait pas à dormir. On avait de l'insomnie. J'ai transmis à la communauté internationale un message qui dit qu'on doit réunir les deux parties pour que la guerre cesse, que toutes les violences cessent, qu'on respecte les droits humains. Parce qu'on est vraiment traumatisé psychologiquement, notre santé psychologique est vraiment troublée. On se réveille très mal et on dort très mal. On croit qu'on va même pas se réveiller à cause des coups de balle qui sont entendus pendant la nuit. Je me sens très mal parce que je crois que des gens vont mourir. Je crois que des gens vont être blessés, d'autres vont peut-être même mourir de tension. Je ne sais pas, d'autres ont perdu toute leur famille. C'est vraiment terrible ce qui se passe, hein, au nord qui vous à ces temps-ci.
Un autre enfant exprime son inquiétude profonde. Il vit dans l'incertitude constante, incapable de se concentrer.
Nous sommes inquiets parce qu'il y a nos frères et sœurs. Par exemple, parmi les sœurs, il y a les sœurs qui sont violées, les autres sont tuées. Abattus, les autres même volent parfois. J'aimerais que la paix revienne et que la guerre cesse. Parce que nous sommes infectés, nous pouvons être en classe, on est seulement... Notre patience et nos oreilles sont ailleurs. Nous croyons que si seulement on vient, on dit la ville est en sécurité, on sort, on n'a plus même envie d'étudier. On devient directement inquiet. Nous, comme on est enfant comme ça, on est inquiet. Quand on, par exemple, on peut voir même les militaires en route, on part à l'école, on se met directement à fuir parce qu'on est inquiet. On est même inquiet qu'il nous frappe, qu'il nous met la balle sur la face pour qu'il nous tue, mais en étant enfant.
Cette jeune fille, quant à elle, se projette déjà vers la fin de l'année scolaire, se demandant avec angoisse si elle pourra passer son examen de fin d'études primaires.
On est traumatisé parce qu'on a passé dans beaucoup de choses. Chez nous, c'est à côté du camp. Alors, les militaires prenaient, jettent leurs uniformes dans notre parcelle. Maintenant, en voyant ça, on s'est déplacé. Et pour venir ici à l'école, c'est un peu difficile. On a fait plus de 3 à 4 semaines, on n'étudie pas. Maintenant, ça affecte beaucoup notre éducation parce qu'il y a des parents qui n'ont plus de travail, qu'on a pillé et ils n'ont plus les moyens de faire scolariser leurs enfants. Pour moi, je ne suis pas sûre qu'on va faire les TENAFEP pour nous de la 6e année parce que les TENAFEP sort à Kinshasa et en ce moment, la communication de Kinshasa et nous, ce n'est pas très stable. Puis, je voulais encore dire que pour les TENAFEP, on ne sait pas parce qu'il y a les autres qui sont là, qui sont en 6e année, qui ont fui. Et là-bas, là où ils ont fui, on ne sait pas s'ils vont faire les TENAFEP ou pas.
Les enfants observent la vie de leur famille et s'interrogent sur leur avenir scolaire, un avenir incertain.
Toutes les banques sont fermées. On est en train d'étudier sans savoir comment on va payer nos frais scolaires. Nos enseignants ne sont pas payés. Tout ça, qu'on a besoin de la paix, on a besoin d'étudier et qu'on a besoin qu'on soit dans la paix. parce qu'on est inquiet. On ne sait pas si même on peut terminer cette année, on ne sait pas.
Cette enseignante, elle aussi traumatisée, témoigne de la difficulté d'enseigner à des enfants qui ont vécu l'horreur de la guerre.
Nous avons reçu des enfants, mais avec les traumatismes que nous-mêmes enseignants nous avions et les traumatismes que les enfants aussi avaient, juste au contrôle des enfants, nous avons remarqué que les enfants ne connaissaient plus rien de ce qu'ils avaient déjà appris au premier trimestre avant le début de la guerre. Les enfants nous ont narré l'histoire qu'ils n'ont jamais vécu la guerre parce que les enfants que nous avons aujourd'hui sont entre 5 ans et 12 ans. Alors que nous avons connu encore la guerre en 2012, ils n'étaient pas encore là. Alors pour eux, c'était la première guerre qu'ils ont vécue, qui a vraiment traumatisé et a touché leur mémoire intellectuelle. Pour le moment, bon, on essaie d'aller avec la matière, mais avec la situation, l'insécurité qui continue toujours, toutes les nuits, on entend des coups de balles qui traumatisent encore les enfants. Il y a des pillages, des tueries. Alors ça essaie de déséquilibrer notre enseignement. Et aussi notre programme national qui n'est pas respecté à cause des temps qu'on a fait à la maison sans être à l'école. Pour le moment, nous essayons de mettre les enfants à niveau, mais avec difficulté parce que actuellement les enfants ne travaillent plus comme ils travaillaient au début. Même en faisant l'application de la leçon, on constate que vraiment les enfants ne sont pas là. Et puis si on remarque qu'ils n'ont rien compris, on est obligé de reprendre encore la leçon de nouveau. Et cela cause à ce qu'on ne termine pas ce qu'on a prévu pour la journée.
Avec les enfants qui ont perdu les acquis du premier trimestre et les horaires actuels des cours, il est difficile de terminer le programme prévu, ajoute un autre enseignant.
Actuellement, tout le monde est traumatisé. Mais comme notre métier nous oblige toujours, nous avons choisi la carrière enseignante pour travailler au profit des enfants, afin de former de futurs leaders. Alors nous sommes en train toujours de mettre nos pieds en marche pour y arriver, mais ce n'est pas facile. Il y a d'abord l'insécurité dans la ville qui ne nous laisse pas aussi le temps de bien travailler, surtout d'être matinal au lieu de service. Parce que nous craignons si nous quittons même nos maisons avant que le matin ne se dévoile, nous risquons aussi d'être victimes des bandits dans la route. Alors nous arrivons tardivement à l'école et cela ne nous donne pas vraiment le temps de bien avancer avec la matière. C'est très difficile de terminer les leçons prévues. Parce qu'avant, nous on commençait à 6h45 avec l'étude matinale. La première heure devrait commencer après le rassemblement à 7h20. Mais actuellement, nous commençons, voire même jusqu'à 7h50 ou 8h. Parce que les enfants eux-mêmes arrivent tardivement et nous ne pouvons pas commencer avant que tous les enfants ne soient pas en classe. Il faut d'abord attendre que la majorité soit là pour commencer. Et nous-mêmes enseignants, nous venons de très loin de la ville. Il y a ceux qui viennent de Ndosho. Il y a aussi ceux qui viennent de Majengo. Alors, pour qu'ils arrivent aussi à l'heure de travail, il faut d'abord quitter la maison tardivement. Ils ne doivent pas encore matiner comme on le faisait avant, craignant toujours l'insécurité dans la ville.
Comme les élèves, les enseignants de Goma implorent la paix, condition essentielle au bon déroulement des activités scolaires.
Je demanderai à la communauté internationale de prendre des mesures possibles pour qu'ils réussissent à réunir tous les deux groupes et que la paix revienne dans notre province du Nord Kivu. Parce que sans paix, nous ne pouvons rien faire. Et si on continue dans une telle condition, l'éducation risque de bâcler. Car il ne peut pas y avoir une éducation sans paix. Même si nous essayons de forcer, mais ça ne peut pas aller s'il n'y a pas de paix dans notre province. Et aussi, nous sollicitons encore au gouvernement national d'avoir une précision et de collaborer avec la province du Nord Kivu pour essayer de répondre à l'inquiétude que nous avons aujourd'hui, surtout pour les passations des examens de fin de cycle primaire. Parce qu'aujourd'hui même, nous nous demandons comment nous aurons les bulletins pendant que les bulletins de fin d'année proviennent de Kinshasa. Et si aujourd'hui Kinshasa ne collabore pas avec la province du Nord Kivu, notre inquiétude est de terminer l'année et ne pas avoir les bulletins à remettre aux parents à la fin de l'année scolaire.
À Goma, aller à l'école aujourd'hui est un acte de foi en l'avenir, un symbole d'espoir en un Congo meilleur.
Okapi, Radio Okapi.
La guerre, un fléau qui ravage l'éducation de nos enfants. Calendrier scolaire bouleversé, école détruite, enfants abandonnés. Les conséquences sont désastreuses. Pour comprendre l'ampleur de ces dégâts, nous avons rencontré M. Odon Moulanda, conseiller d'orientation et expert en éducation. Il nous livre son analyse et lance un appel aux autorités compétentes pour que les enfants retrouvent le chemin de l'école. Une interview de Jeff Opela.
Monsieur Odon Moulanda, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons aujourd'hui de l'impact des guerres et des conflits armés sur l'éducation. Quel commentaire faites-vous là-dessus?
Merci, monsieur le journaliste. J'apprécie à sa juste valeur le thème que vous avez choisi sur l'impact des conflits et des guerres sur l'éducation. En fait, pour parler d'abord de l'éducation, nous n'allons pas donner des définitions scientifiques ici. Mais nous voulons tout simplement fixer l'opinion que c'est une mise en œuvre des moyens d'assurer la formation et le développement d'un être humain. Alors, l'éducation embrasse plusieurs domaines. Nous avons, par exemple, l'éducation au niveau de la famille, qui commence de là, et cette éducation se poursuit au niveau de l'école ou l'université, ce que nous appelons instruction, et nous allons encore au niveau de l'église et dans la rue, que nous appelons l'éducation du fils aussi. Alors, donc, le parcours de la personne qui traverse ces différents milieux a un impact sur sa vie sociale, ce qui fait que chacun, par son éducation, est appelé à contribuer pour le développement de son pays.
Mmh.
Alors, par rapport au sujet, remarquez que nous parlons à l'opposé des guerres. Les guerres, ce sont des phénomènes de violence collective organisée qui affectent les relations entre les sociétés humaines. On peut voir sociétés s'opposer à telle autre et il y a affrontement. Quand nous parlons de la guerre, il y a des synonymes que nous pouvons retenir comme l'affrontement, comme des conflits armés, comme des hostilités, et comme des offensives. Tous ces phénomènes-là sont des blocages aussi à l'action de l'éducation. Donc voilà un peu de manière brève par rapport à ce que vous avez parlé des concepts clés dans votre intervention.
Alors, monsieur Odon Moulanda, selon vous, quelles sont les conséquences des guerres sur le plan de l'éducation?
En tout cas, la guerre sur le plan de l'éducation entraîne beaucoup de conséquences.
Mmh.
Parce que vous savez très bien qu'au niveau du système éducatif, il y a une programmation des activités. Et au niveau des ministères, on parle des calendriers scolaires.
Mmh.
Dès qu'il y a la guerre, sachez qu'il y a le non-respect du calendrier scolaire. Dès qu'il y a guerre, sachez que les activités aux écoles ne sont plus possibles. Les écoles sont détruites, les enfants abandonnent, les enfants sont déplacés, et tout ça, ça a des effets néfastes pour une jeunesse qui devait être formé pour une période donnée, cette jeunesse-là est abandonnée à son triste sort.
Mmh.
Donc, on voit que les guerres entraînent beaucoup de conséquences parce que on a toujours dit que l'avenir de demain dépend de la jeunesse qu'on est en train de former maintenant. Mais si cette jeunesse-là n'est pas bien formée, alors on vit à autre chose. Et vous verrez que même sur le plan des relations interpersonnel, les élèves de tel milieu deviennent en guerre avec d'autres. C'est comme ça que vous voyez que dans les groupes armés, on profite même au recrutement même des jeunes enfants. Ces enfants qui devaient grandir avec l'amour du prochain, mais apprennent déjà à tuer. Ils deviennent déjà violents. Donc, vous comprenez que c'est pas facile pour une société où toute la jeunesse est plongée dans les conflits armés, que nous ayons vraiment la vie en société, que vous voyez que les gens puissent vivre ensemble. Donc, les conséquences de la guerre sont vraiment néfastes en milieu scolaire. Et là, il faudra qu'on en tienne compte parce que le résultat que cela offre ne sont pas vraiment faciles à récupérer pendant des années.
Alors là, vous parlez de l'école, mais par rapport à l'élève, quels sont les impacts des guerres?
À l'élève, je l'avais déjà anticipé.
Mm-hmm.
Vous comprenez que l'enfant qui est né comme objet social qui doit vivre en paix avec son voisin, cet enfant-là commence à grandir avec des idées que tel c'est mon ennemi et il faut l'éliminer. Donc cela crée déjà la frustration auprès des élèves. Ça crée déjà l'agressivité, le principe d'agressivité. Donc l'enfant se met dans un comportement qui n'est pas le sien, mais qu'il adopte en conséquence à ce qu'il a vécu comme atrocité. Donc il va développer en lui les concepts de défense de soi. Et cette défense-là fait en sorte que l'enfant qui deviendra violent ne sera plus en mesure de travailler ou de vivre dans une communauté dignement ensemble avec les autres. Donc pour l'élève, la guerre entraîne aussi des conséquences. Il désocialise l'enfant qui est pourtant un objet social.
Et la guerre désocialise l'enfant qui est un objet social. Alors, Monsieur Odon, quelles sont les solutions que vous pouvez apporter à cette situation?
Votre solution, c'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est en amont. Il faut voir qu'il y ait des campagnes de sensibilisation pour éviter des conflits armés dans les pays, dans les communautés.
Mmh.
Parce que c'est là où on a besoin de pouvoir sensibiliser les gens, la communauté sur la nécessité de la vie ensemble. Donc, le savoir-vivre ensemble, le savoir-vivre en communauté. Lorsque chacun considère son voisin, son père, comme faisant partie de sa propre vie, il n'y aura pas de violence. Il faut éviter l'égoïsme. Il faut éviter aussi l'essence de cultiver la distinction entre la communauté. Et ça, c'est le premier travail qui doit se faire en amont. Mmh. Et sur le terrain, il faudra toujours des médiations. Il faudra toujours savoir comment travailler pour chercher les vraies causes de ces conflits et de dire clairement et que chacun des parties prenne conscience des méfaits et des conséquences de ce que les enfants ou la communauté est en train de vivre. Alors, à ce moment, on prend l'engagement de pouvoir vivre ensemble pour voir comment il faut faire. Et au niveau de l'école, il y a une dimension de l'accompagnement psychosocial qui devra se faire auprès des enseignants, auprès des élèves qui ont subi les affres de guerre. Ils sont déjà traumatisés. Alors, les psychologues, conseils d'orientation, tout le monde, est appelé aussi à participer pour sensibiliser les élèves et toute la communauté sur le méfait et comment arriver à déstresser la communauté par rapport à tout ce qu'on vit dans le monde des guerres.
Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui sont tirés de là, mais vous, en tant qu'expert en orientation scolaire, avez-vous un mot aujourd'hui pour ces enfants-là qui sont tirés des groupes armés et tout ça, et pour reprendre l'école, avez-vous un mot à placer là-dessus?
Nous encourageons ces enfants-là qui sont encore l'avenir devant eux.
Mmh.
Donc, le milieu armé pour les enfants ne leur permettra pas d'aller plus loin. Il faudra que, au niveau de nos entités respectives, là où il y a des autorités au niveau provincial et partout là-bas, qu'on puisse regrouper ces enfants-là, qu'ils soient sensibilisés, qu'ils soient pris en charge, comme j'ai parlé dans le cadre de l'accompagnement du soutien psychosocial, pour les aider avec des conseils pour qu'ils reprennent du moins le chemin de l'école. Ceux qui sont déjà un peu plus âgés, s'ils ne peuvent pas trouver l'école, mais il y a des centres de formation aussi professionnels dans lesquels ils peuvent trouver vraiment l'opportunité de pouvoir refaire leur vie. C'est quand même nécessaire pour leur personnalité et pour l'épanouissement de leur vie sur le plan social.
Voilà, on va se quitter, Monsieur Odon Moulanda. Un mot pour la fin.
Le mot pour la fin, c'est que nous sommes tous dans la communauté appelés à pouvoir cultiver la paix, la vie en communauté et partager les douleurs, le malheur et le bonheur. Et chacun puisse considérer que nous sommes ou nous constituons chacun le maillon d'une chaîne.
Mmh.
Lorsque le maillon tombe, c'est toute la chaîne qui est du moins abîmée. Donc, il n'y a personne qui peut se mettre au-dessus de l'un ou de l'autre, mais ensemble, construisons une société où faire beau vivre.
Monsieur Odon Moulanda, je rappelle que vous êtes psychologue et expert en orientation scolaire et également expert en éducation. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci, monsieur le journaliste.
Kinshasa sur 103.5 FM.
Impact de conflits armés sur la santé mentale de nos enfants. Comment la guerre bouleverse-t-elle leur équilibre psychologique et affecte-t-elle leur capacité à apprendre? Quels sont les traumatismes invisibles qui les empêchent de se construire? Pour répondre à ces questions, nous avons le privilège d'accueillir le psychologue Marcel Otita, professeur à l'université de Kisangani. Il nous apportera son éclairage sur les conséquences psychologiques des conflits et les pistes pour aider ces enfants à retrouver le chemin de la sérénité. Une interview de André Kitenge.
Professeur Marcel Otita, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Professeur, vous êtes psychologue. Dites-nous, quels sont les impacts psychologiques des conflits armés sur les enfants et leur capacité d'apprentissage par rapport à la situation dans l'est du pays?
Merci beaucoup. Nous savons tous que lorsqu'il y a conflit, comme ce qui se passe à l'est de la RDC, le conflit est accompagné de beaucoup d'autres problèmes qui sont potentiellement traumatiques. Alors, ces problèmes-là, traumatiques, comme la guerre, comme les cas de viol, de torture, tout ce que les enfants peuvent être témoins, victimes ou exposés, voilà, à cela, peuvent avoir une implication sur leur capacité d'apprentissage dans la mesure où il y a un lien entre l'émotionnel et le cognitif. Voilà un peu ce que je peux dire d'entrée de jeu par rapport à votre question.
Par rapport à votre réponse, comment les traumatismes peuvent-ils affecter le développement cognitif et émotionnel des enfants?
Ok, merci beaucoup. Les traumatismes, lorsqu'il y a un événement potentiellement traumatique ou un événement traumatique qui s'abat ou qui apparaît dans les milieux, cet événement-là va directement toucher le psychisme. Ça va toucher le psychisme parce que il y a ce que nous appelons le débordement des défenses psychiques de l'individu. Et lorsque il y a ce débordement, on va observer tout simplement des perturbations sur le plan émotionnel d'abord. Et quand on est perturbé sur le plan émotionnel, qu'est-ce qu'on peut encore constater? On va constater que au niveau sur le plan cognitif, les individus ne peuvent plus rien faire des choses correctement, raisonner correctement va poser problème, percevoir les choses correctement posera également problème, et surtout que c'est avec les enfants. Et en plus de cela, même chez les tout petits, vous allez voir que même si les tout petits ne comprennent pas la réalité de ce qui se fait, mais les tout petits est conditionné par les réactions de l'entourage, c'est-à-dire des parents. Si les parents vivent aussi les traumatismes à un niveau élevé, cela va avoir des répercussions dans la manière d'agir des enfants. Et c'est pourquoi vous allez voir que ces enfants-là vont percevoir les choses d'une autre manière. Au niveau de la mémoire, ils auront aussi difficulté à retenir certaines choses. Au niveau même des prises de décision, ils ont aussi du mal à se prononcer parce qu'ils sont paralysés tout simplement par une émotion. Et cette émotion qui les paralyse, ne les paralyse pas seulement, mais il y a aussi ces émotions-là vont se transformer à un certain moment à des situations où les enfants vont commencer à éviter certains endroits, certaines conversations ou actions liées à l'événement. Et aussi, on peut observer maintenant chez ces enfants ils ont des réactions, un ensemble de réactions d'hypervigilance, des sursauts par exemple, et là l'individu n'est plus à l'aise. Et quand il n'est plus à l'aise, l'attention va baisser et il va vraiment, il sera une implication au niveau de l'apprentissage chez les enfants.
Et dans ce cas, quelles sont les techniques de soutien psychosocial les plus efficaces pour aider les enfants à surmonter les traumatismes?
Oui, je proposerai la ludothérapie, c'est-à-dire il y a les jeux, il y a les arts, voilà, arts artistiques. Les enfants peuvent les utiliser pour sortir de leur situation traumatique. C'est pourquoi on voit par exemple lorsqu'il y a par exemple la guerre, vous allez voir les enfants durant la journée sont en train de jouer aux jeux de guerre. Par exemple, la guerre est commencée, tout ça, ils tirent, ils courent. Ces jeux là, c'est pour montrer que les enfants sont traumatisés et en même temps, les jeux là permettent de détraumatiser les enfants par les processus d'habituation à l'événement qui vient de se produire jusqu'à ce que les enfants vont banaliser cette situation et maintenant s'adapter. Donc, ils peuvent utiliser les jeux et les arts, ça peut les aider à se rétablir de leur situation.
Quel rôle les parents doivent-ils jouer en pareilles circonstances?
Oui, les parents ont vraiment un rôle à jouer en pareilles circonstances dans la mesure où ce sont les parents qui sont censés encadrer leurs enfants et ce sont les parents qui doivent aussi, lorsqu'ils sont résilients, ils peuvent aussi avoir, disons, cela peut aussi avoir l'implication sur leurs enfants. Parce que s'ils sont encore plus touchés, les enfants vont s'enfoncer davantage. Mais si les parents se montrent résilients et encadrent leurs enfants, les encourager, et les enfants vont progresser petit à petit avec les actions aussi d'autres spécialistes.
Vous avez parlé des activités ludiques, mais comment les programmes éducatifs cette fois-ci peuvent-ils intégrer des approches sensibles au traumatisme?
Dans les programmes éducatifs, on peut vraiment réaliser, par exemple, chez les tout-petits, il faut des moments de récréation, des activités de récréation avec les enfants pour leur permettre d'exprimer les émotions, les énergies bloquées à la suite des événements traumatiques. Et comme ça, si ces énergies-là sont libérées, les enfants peuvent aussi se sentir à l'aise. Donc, on peut proposer aux enfants les activités récréatives et créatives. Cela peut les aider à se libérer des émotions qui les bloquent.
C'est quel conseil donneriez-vous, surtout aux parents qui vivent avec tous ces enfants qui sont affectés par la guerre aujourd'hui?
Oui, les conseils que nous donnons aux parents, que les parents sachent que, comme eux aussi sont traumatisés par la situation des guerres, les enfants de leur côté les sont également. Et c'est pourquoi il est souhaitable que les parents puissent accompagner leurs enfants pour la prise en charge psychologique, prise en charge médicale et pour essayer de juguler ces problèmes. Et nous demanderons aussi aux parents de pouvoir être toujours attentionnés aux problèmes de leurs enfants pour les aider, pour les rassurer. Parce que si les enfants sont rassurés, ils peuvent facilement sortir de leur situation. Donc, aux parents d'être attentifs, d'accompagner les enfants pour la prise en charge et aussi de laisser les enfants dans les activités récréatives, des activités créatives et les jeux, ça va permettre aux enfants de pouvoir vraiment récupérer leur équilibre rompu suite à un événement qui est anormal par rapport aux enfants.
Professeur Marcel Otita, merci.
Merci, messieurs les journalistes.
Et Et voilà les amis, notre émission Bana Okapi s'achève pour aujourd'hui. Nous espérons sincèrement que ce voyage au cœur des défis de l'éducation en zone de conflit vous a touché et informé. Vous souhaitez réécouter les témoignages poignants et les analyses de nos experts. Rendez-vous dès maintenant sur les sites de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous retrouverez l'intégralité de ce numéro ainsi que toutes nos autres productions. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook Bana Okapi pour partager vos impressions, poser vos questions et prolonger la discussion. Ensemble, faisons entendre la voix de ces enfants et agissons pour leur avenir. Nous disons merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Sulamit Kipuni, Plantain Yambinga, Jeff Opila, Ezekiel Mouzali, Guylaine Kassassia, Modombi Benjamin, Étienne Lissumbo, Pascal Chinamoula, Grace Vezolo, André Kitenge, Stanislas Diomi et Christelle Fritti. Un grand merci également à Christian Mapendano et à Chris pour la coordination, à Jean-Marc Matoakimofele, Lady Jano pour la supervision et à Pierre Diassinois pour la mise en onde. Je suis Sarah Soumbela à la présentation. Un grand merci à tous nos auditeurs fidèles et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Bana Okapi.